Terrorist networks, terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique 111e numéro. Gilles Gouget dans le micro, Pascal Rullier de l'autre côté de la vitre. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous et à toutes qui nous écoutez sur les ondes de Divergence FM 93.9, Radio Escapade 104.1, 103.3 et maintenant le 102.0 à la salle. Et puis aussi à vous qui nous écoutez au Québec sur CKIA 88.3. N'oublions pas aussi nos chers nets auditeurs, qu'ils soient belges, suisses ou francophones.
Ou patagonais, allez savoir. Au sommaire, l'indispensable et traditionnelle revue de presse de l'April par Luc Fievet et Emmanuel Charpentier de l'April, évidemment.
Et puis on reviendra sur Solution Linux 2011.
Oui, avec une interview des délégués généraux de l'April et de Framasoft, respectivement Frédéric Couchet et Pierre-Yves Gosset, qui parleront eh bien, du financement de leurs associations libristes.
Et puis on reviendra aussi sur les déjeuners ciné libres qui s'étaient passés donc à l'Utopia le 15 mai avec une interview de David Crevoy, donc autodidacte de 25 ans, qui nous présentait les trois films de la fondation Blender, donc projetés dans ce cadre-là. C'était le directeur artistique du dernier film, Sintel, et on aura donc quelques interviews du public à la sortie de ces projections.
Sans oublier évidemment le film musical, car il y a toujours un tout petit peu de musique dans Divergence numérique.
Et oui, le film musical, on le continue par rapport à la semaine dernière, Dub Tentacles volume 3, la sortie de Fresh Pulp, net label orléanais. On découvrira trois morceaux supplémentaires.
Les nouvelles du front.
Des nouvelles du front présentées par nos indispensables apriliens.
Luc Fievier et Emmanuel Charpentier de l'April.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 20 de l'année 2011. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, ça roule ?
Ça roule très bien. 7 articles cette semaine. Il y a du beau, il y a du joli, il y a du Nintendo et des briques. Hein. Casse pas des briques du tout. Il y a du documentaire de la Coagule, de l'Aventurier, le département de la défense américaine qui fait parler de lui. Il y a aussi comment démarrer une civilisation. Ça, c'est du très lourd.
J'adore ce jeu.
Il est vraiment bien, hein. Franchement, ouais. Frissive. Il n'y a rien de tel. Et puis, un compte-rendu solution GNU Linux 2011. Un article intéressant sur Microsoft qui ne combattrait plus l'open source. Et finalement, la poilade du mois, la 2pi, qui passe en mode passoire.
Oui, c'est le gag. On a gardé le meilleur pour la fin. Donc, premier article est un article de Pocket, qui est un site sur les jeux.
Oui, et il y en a d'autres du même genre, donc c'est la première fois qu'ils arrivent dans la revue de presse.
Voilà, Nintendo peut piocher à distance les photos dans la mémoire de votre 3DS, point d'exclamation, par un certain P. Donc, c'est Pocket Video Games, le site. Donc, de quoi s'agit-il, hein? Tu parlais de briques en plus.
Oui, hein. Eh bien, c'est Nintendo. Ils ont, comme d'autres, hein, comme Sony, un réseau sur lequel ils peuvent distribuer du contenu et vendre des jeux, permettre aux gens de partager leurs données. Eh bien là, Nintendo, il semblerait, ils ont des conditions d'usage qui sont un petit peu extrêmes, peut-être.
Ah, c'est une info remontée par la FSF, la Free Software Foundation, et qui indique que, voilà, comme dans beaucoup de consoles et beaucoup de matériel portable comme les téléphones, eh bien le fournisseur, en l'occurrence ici c'est Nintendo, peut aller venir mettre son nez dans votre machine. Alors je voyais ce matin un article qui disait que grâce à ça, notamment sur les smartphones, ça faisait baisser les vols, parce qu'en fait quand on se faisait voler son smartphone, on le faisait désactiver à distance.
Ce qui est super.
Et c'est super tout ça, sauf que y a quand même un revers à la médaille, c'est que ils peuvent également aller voir tout ce que vous faites, vos petites photos, vos scores, toutes vos données personnelles. Et en plus ça, ils s'octroient le droit, c'est dans les conditions d'usage, bah, de éventuellement les exploiter commercialement pour faire de la pub et des genres de choses.
Et ça, j'imagine les quelques personnes qui auront fait des photos un peu personnelles, voire coquines, qui risquent de les retrouver dans des publicités Nintendo, ça va être super sympa.
Je pense pas que ce soit les photos qui freinent, mais bon, en tout cas, quand on fait ce genre de photos, on n'a pas nécessairement envie que n'importe qui puisse aller regarder. Donc, si vous êtes du genre à vous prendre en photo en pleine action, ne le faites pas avec votre 3DS, ce serait possible qu'il y ait une bande de japonais qui se fende la gueule.
En tout cas, c'est la FSF qui vous recommande de l'éviter, donc on va voir si ça a un peu de poids ou pas. Et ce qui est assez amusant, c'est que justement des sites de gamers font référence à la Free Software Foundation. Je crois bien que c'est une première assez intéressante.
Voilà, en tout cas, ça montre que l'informatique de confiance, comme on l'appelle, ne mérite toujours pas son nom. Article suivant, donc article de Numérama, copier n'est pas volé, le documentaire de l'association Coagule par Julien L. Donc c'est un documentaire assez long, hein, une bonne heure, tu l'as pas regardé en entier, moi j'ai pas encore commencé.
Je suis passé dessus, il commence voilà. Très très bien en reprenant un dessin animé qui était génial et qui documentait justement, qui montrait ce que c'était que copier. Et pourquoi c'était bien. Et derrière, qui reprend des interviews et différentes présentations de grands pontes du logiciel libre, français et américain. Donc on a la liste par là. C'était Laurence Lessig, il y a du Jérémy Zimmermann.
Florent Latrive, qui est un journaliste de Libération qui avait été très en pointe sur les questions de propriété intellectuelle et de façon très large, au-delà du logiciel.
Et Albert Jacquard, un célèbre généticien. Donc et ils sortent tous, enfin c'est du lourd, hein, des choses bien intéressantes. Peut-être un petit peu justement lourd à regarder,
mais en tout cas ça vaut la peine, oui.
Donc allez jeter un œil. Donc l'article c'est Numérama et l'association qui est concernée c'est Coagule. Bah, ils ont fait un super travail.
Article suivant, donc ZDNet.fr, Acer et MSI condamnés, la vente libre prend encore un coup, par Pierrick Aubert.
Donc on en a déjà parlé, la vente liée c'est ce qui consiste à vous vendre non seulement du matériel mais du logiciel que vous n'avez pas forcément choisi et qui peut vous coûter quand même une belle blinde, jusqu'à 100€ pour le système d'exploitation et plus pour les suites de type Office qui seront parfois avec.
D'autres logiciels qu'on peut avoir sur un système préinstallé et où on ne vous informe jamais de combien ça coûte en réalité.
Donc là c'est l'AFUL qui monte au créneau, ils ont tout un groupe non racketticiel et c'est la justice locale qui a tranché en s'appuyant sur la justice
de proximité à Aix-en-Provence et qui effectivement s'appuie sur un arrêt de la Cour de justice européenne. Donc une bonne nouvelle, c'est une jurisprudence. Alors ça va, on a connu quelques mauvaises nouvelles ces derniers mois, donc ça fait du bien et on espère que ça fera pencher la balance du bon côté.
Oui, c'est l'avantage de la jurisprudence, ça peut peut-être mettre une suite de bonnes décisions et qui vont prendre du poids avec le temps. C'est un vieux sujet. Donc pour continuer, alors là c'est l'armée américaine qui fait parler d'elle. Donc sur Information Week, DoD releases Open Source Development Guide par Elisabeth Montalbano. Donc DoD, Department of Defense.
Oui, si tu le dis. Donc c'est un article en anglais, hein, donc là, attention, on a remarqué ton accent fabuleux, c'est beau. Donc c'est un article qui explique que le département de la défense américain donc a sorti un document de 68 pages, donc un guide pour en gros faire des développements open source, comme ils disent, donc à la fois mener des projets open source et faire appel à des entreprises et des fournisseurs qui déploieraient ce type de solution.
Donc ils essayent de mettre en avant les meilleures pratiques et d'aider les développeurs à créer en utilisant des technologies dites ouvertes. Donc si je comprends bien, ils ont même une forge de développement, c'est présenté à la fin de l'article, sur forge.mil. Donc c'est du militaire, là aussi c'est un gros truc, parce que il faut pas oublier, le département de la défense américaine, ça doit être la moitié du budget militaire mondial. Donc,
les Américains font la moitié des dépenses mondiales d'armement. Le président des États-Unis a le prix Nobel de la paix, mais bon, ils ont également rajouté un réseau social autour de ça. Donc, des éléments qui laissent entendre que, en tout cas, l'armée américaine prend des options très sérieuses du côté du logiciel libre et open source, donc c'est une bonne nouvelle.
Oui, hein, ça donne beaucoup de poids, parce qu'on sait que quand ce genre de département choisit des technologies, derrière, il y a tout un plan de l'industrie américaine qui suit, de fait, hein, pour simplement répondre à ces besoins-là. I have
a dream. Article suivant, article de OVNI, mode d'emploi pour démarrer une civilisation par AK. Donc, en fait rien à voir avec le jeu. Quelle déception.
C'est rageant, mais si, t'as tort. Non, c'est justement, les gars, ils sont en train de refaire toutes les découvertes dont on a besoin pour monter sa bonne civilisation pour foutre sur la gueule des autres, non ? C'est pas ça ?
C'est pas exactement ça. Bon, l'article est amusant, Oui, il est amusant. Il est intéressant également parce qu'il fait écho à ce que disait Tan Yem, dont on a parlé il y a 15 jours, si ma mémoire est bonne.
Oui, des abeilles et des hommes.
Des abeilles et des hommes, et qui parlait de la façon dont on pouvait s'inspirer des principes du libre, du partage et de la démarche hacker, de hacking, pour promouvoir une société durable. Et en disant que c'était pour elle la solution pour y aller. Et là, on a un exemple qui tombe pile dans ce qu'elle dit. Donc, c'est un truc qui a été lancé par un Polonais, donc Marcin Jakubowski. Donc oui. Je le fais pas avec l'accent, mais c'est parce que je veux pas te mettre la honte. Donc voilà, ce gars-là, il a fait des études assez poussées parce que il a fait quoi ?
Il est ingénieur.
Il est ingénieur, mais il est un peu spécialisé en fusion ou un truc comme ça.
Ouais, enfin, ce qu'ils ont dit, c'est un truc qui sert à rien.
Il a un doctorat même. Donc un doctorat sur des trucs hyper pointus, et il s'est rendu compte que ça servait strictement à rien. Donc du coup, il est devenu fermier aux États-Unis. Et une fois qu'il a occupé cette position, avec une petite surface, je suppose un petit fermier, il s'est rendu compte que tout était très cher, les tracteurs, les machins, que ça tombait en panne, qu'il fallait réparer, que ça coûtait une fortune et que finalement, financièrement, il s'en sortait pas. Et donc, il est parti dans l'idée d'avoir développé les moyens de se faire les outils dont il a besoin, avec les moyens du bord, des trucs qu'il puisse maintenir lui-même, construire lui-même. Et il a comme ça développé toute une série de machines alors qui font... Toi, tu disais que ça fait pas rêver.
Si, c'est des Lego sur pattes, c'est pas mal. Hein. J'ai regardé un peu, il y a des vidéos associées. Le gars, en une semaine, il se construit un tracteur. Enfin, une sorte de tracteur. Enfin, un gros Lego géant de tracteur, mais si ça a réussi à faire tracteur, moi j'applaudis.
Alors, en tout cas, c'est ce qu'il dit, et que ça remplit les besoins qu'il a, que c'est solide.
Oui.
Il n'y a pas l'obsolescence programmée qui va le pousser à changer constamment son matériel, que ça lui permet de faire tourner son truc, et qu'il atteint une rentabilité qu'il n'avait pas avec le système d'avant. Et bien entendu, il partage tout ça, c'est-à-dire qu'il a documenté, et qu'il partage sous licence libre, et qu'il y a une communauté qui s'est construite autour de ce gars-là et de ses propositions.
Et donc il y a vraiment une optique comme ça de savoir quels sont les outils nécessaires et peut-être suffisants à monter une civilisation. Forcément, l'agriculture, c'est une base quand même assez fondamentale, on n'y coupe pas.
Donc là, faut commencer par manger.
Exactement. Et donc, un docteur en énergétique ou quelque chose d'aussi, en fusion énergétique, qui se lance dans la ferme, ça amène à des choses intéressantes. Donc l'article vient du Framablog à l'origine. Génial, bravo, faut qu'il continue. J'espère qu'on va voir d'autres choses derrière. Il passe sur TED, donc un site où il y a des conférenciers qui se présentent et qui est pas mal aussi. Allez jeter un œil à l'occasion.
Alors, tout Linux, solution Linux 2011, comment va le logiciel libre ?
Solution GNU Linux, je te rappelle.
Le titre, c'est ça. Donc, un article de Philippe Scofoni.
Mais ils se trompent, c'est tout. C'est pas de leur faute, ils savent pas. Donc, c'est un compte-rendu du solution GNU Linux d'il y a deux semaines.
Oui.
Donc, qui reprend un petit peu ce qui s'est passé sur place, la rencontre, ce que présente l'auteur, la rencontre entre les deux mondes. Les entreprises,
oui,
les
associations, c'est un des points sympathiques de ce salon, c'est qu'il y a toujours les associations et les entreprises côte à côte, et c'est pas mal d'avoir ces deux univers qui se côtoient.
Il a l'air de, il se pose des questions, est-ce que le logiciel libre va bien ?
Oui, il a l'impression que c'était un peu moins dynamique et fréquenté que l'année d'avant. Ce qui n'est pas une évidence, parce que ça a aussi changé de lieu, donc
exactement,
pas évident.
Passer de Porte de Versailles, donc là où il y a des grands salons avec de la place énorme, jusqu'à revenu au Knit à la Défense, mais qui est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça paraît plus tassé. Moi je pense que c'est pas forcément... Non, je pense que c'est très bien. Il y avait le pavillon tunisien qui était pas mal, qui était énorme. Et il y a moyen de rencontrer plein de monde dans les associations.
Voilà, en tout cas c'est un point de vue sur le sujet. Qu'on peut aller voir, c'est assez complet.
Donc ensuite, 01net, logiciel libre, Microsoft ne comble plus l'open source, par Christophe Guillemin. Donc alors là, je comprends pas. Là, ça fait 10 ans qu'on nous bassine que Microsoft c'est l'ennemi. Et là, ils ont changé d'avis.
En fait, on retrouve quelqu'un dont on avait déjà parlé, certain Alfonso Castro. Donc ce type qui avant travaillait dans l'open source et qui est un peu, semble-t-il, un professionnel du retournement de veste.
Hop, un travailleur indépendant. Oui.
Voilà, un travailleur indépendant qui donc était dans l'open source avant de dire que finalement...
Max était pas mal.
Max était bien. Ouais. Et avant de dire que finalement un smartphone sous Windows 7, il y avait que ça de vrai. Donc ce gars-là, c'est le monsieur open source de Microsoft qui déclare haut et fort que bah, maintenant ils ont arrêté de faire la guerre aux logiciels libres et qu'eux ils en font et que c'est super.
Oui, hein, faut se rappeler, il parlait de communisme ou de cancer en parlant de logiciels libres il y a 10 ans. Bon, je ne sais pas si
même
ça a vraiment changé.
Il y a moins de 10 ans.
Il y a moins de 10 ans.
Quelques années à peine. Alors, quelques réactions. Côté de l'April, notre bien-aimé Frédéric Couchet, délégué général.
Délégué génial.
Voilà, dit que bon, c'est que de l'affichage et que derrière, Microsoft continue à combattre le logiciel libre dans les organismes de normalisation, dans les ministères, quoi qu'ils en disent. Même son de cloche du côté de la file avec Thierry Steuer qui dit qu'en fait ce genre de discours est surtout là pour les clients de Microsoft qui commencent à se poser des questions sur l'interopérabilité des solutions Microsoft et que voilà, ils ne font illusion auprès de personne.
Bon, bah donc vous faites pas d'illusion, en tout cas nous on essaye de ne pas s'en faire trop.
Alors, on a gardé le meilleur pour la fin, écran.fr, donc Adopi en mot de passoire par Camille Jevaudan. Donc, ça parle d'une société qui s'appelle Trident Media Guard, ça fait peur, hein, c'est sérieux, qui travaille pour Adopi, la célèbre Adopi. Et ils travaillent à collecter des adresses IP, à surveiller les réseaux peer-to-peer. Et donc là, ils sont un petit peu dans l'œil du cyclone. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, ils se sont viandés. Ils ont laissé des serveurs en accès disponible sur le web, donc sans aucune protection.
Non, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Bluetooth, qui est un blogueur assez connu, a hacké leur serveur pour récupérer des données qu'il n'aurait pas dû hacker. Ils ont comme porté plainte contre lui.
C'est ça, ils ont porté plainte et ils nous ont retiré la plainte dans les 5 minutes qui ont suivi, quand ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient tout simplement complètement oublié de sécuriser leur serveur. Mais même pas juste un peu sécurisé, hein. Ils ont tout laissé de base.
Ça arrive, ça. Non, je veux dire, toi qui es du métier, c'est classique.
Bah non, c'est comme de vendre une maison sans porte, ça se fait pas. C'est franchement, c'est le degré zéro de la compétence. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris,
ouais, je pense qu'on pourrait même aller dans le négatif.
On leur a filé des pelles. Ils sont en train de creuser et de loin. Non, et là, si j'ai bien compris, il y a même là Adopi, ils sont méchamment pas contents et ils ont arrêté de travailler avec TMG parce que là, quand même, on sécurise Internet, mais à ce point-là, c'est quand même pas super bon.
D'accord, donc tu es en train de me dire qu'aujourd'hui plus personne ne contrôle les réseaux peer-to-peer.
Et plus personne ne contrôle pour l'instant, en tout cas officiellement. Mais craignez rien, ils ont un stock d'adresses IP pour lesquelles ils vont envoyer des courriers. Donc ils vont pouvoir piocher dedans. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a plus de mercenaires sur le net en train de nous surveiller.
Alors en tout cas, c'est plein d'enseignements parce qu'on voit déjà la liste de ce qu'ils surveillent, une liste qui est secrète.
Et on voit qui était secrète, oui.
Voilà, qui était secrète, hein, jusqu'à ce qu'elle soit téléchargeable par n'importe qui, on en connaît qui l'ont fait. Et que par ailleurs, en fait, ça provoque quelques ambiguïtés.
Oui, alors il semblerait qu'il y a des fichiers qui sont surveillés, qui contiennent le mot Eclipse. Ça correspond à un album de musique, mais aussi à une suite de logiciels pour développeurs, qui est libre, hein, du logiciel libre, tout ce qu'il y a de libre. Donc on pourrait supposer que quelques développeurs vont recevoir des courriers.
Parce qu'ils ont téléchargé Eclipse.
Exactement.
Pire, le logiciel libre.
Exactement. Donc il semblerait aussi qu'il y a toute une liste de contenus qui sont surveillés. Allez jeter un œil, c'est pas mal intéressant. Alors, et à noter, c'est Numérama qui a sorti cette info en premier, et Écran fait référence, donc honneur à eux, font référence à Numérama qui a vraiment fait du super travail. Donc, merci à Bluetooth aussi, Bluetooth. Hein, c'est génial, j'aimerais bien savoir comment il est tombé sur ce serveur quand même.
C'est une bonne question, on essaiera de se renseigner. Bon, en tout cas, Manu, merci.
Oui, merci à toi Luc, et puis merci à Divergence. Hein.
Oui, bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Et c'était la revue de presse qui remue de l'April, et on les remercie. À titre d'info, moi j'ai regardé tout à l'heure bien justement le documentaire de l'association Coagule, Copier n'est pas volé, dont il était question, et je vous conseille vivement de l'aller voir, car évidemment c'est un documentaire libre qu'il ne faut absolument pas rater.
Je pense que ce sera aussi le thème d'un ciné libre un dimanche matin à l'Utopia.
Voilà, pour l'instant, un tout petit peu de musique, Pascal.
Oui, avec la suite de notre fil conducteur musical de la semaine dernière. C'était tellement beau qu'on en redemande. Dub Tentacles, volume 3, la sortie donc de ce net label Fresh Pulp, fresh-pulp.net. Et on va écouter In Rough, dub par Ja Bila qui rencontre Poupa Congo. C'est du dub et c'est en licence Creative Commons by NCSA 3.0.
Competition, too much one. I bring music like a musician. Jose, 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 me da.
Et voilà pour cette première pause musicale dans votre émission hebdomadaire sur la vie des logiciels libres, un extrait de la compilation Dub Tentacles.
Et oui, on est toujours sur Divergence Numérique, sur le 93.9 de Divergence FM, et puis sur d'autres radios comme Radio Escapade, 104.1, 103.3, 102.0, et puis sur CKIA aussi au Québec, on nous écoute sur le 88.3.
Alors, il y a quelques semaines se tenait le salon Solutions Linux 2011, plus précisément Solutions Linux GNU,
GNU/Linux.
GNU Linux 2011, lors de laquelle IntelliNTV, la web TV apprenante, avait organisé pas mal de plateaux, dont celui que nous allons écouter maintenant, qui fait se rencontrer Frédéric Couchet, délégué général de l'April, et Pierre-Yves Gosset, délégué général de Framasoft, sur le financement de ces associations du libre. Et c'est Frédéric Couchet qui démarre en parlant évidemment de ce qui se passe de ce côté-là à l'April.
Alors nous en fait on a un modèle de financement qui a été choisi dès le départ, c'est un modèle exclusivement de cotisation. Donc aujourd'hui l'April c'est plus de 5000 adhérents, majoritairement évidemment des individus, il doit y avoir 5000 individus, 300 ou 400 entreprises, 200 associations et des collectivités. Donc ça finance une équipe de 3 permanents et un certain nombre d'actions. Ce choix du modèle en fait cotisation, c'est aussi une question d'indépendance. Par exemple, on a refusé le choix de la subvention publique parce qu'une partie de notre action est de sensibiliser le pouvoir public. Donc, en termes d'indépendance, on ne souhaite pas avoir de subvention. Donc, pour l'instant, c'est un modèle exclusivement cotisation.
Pour le cas de Framasoft, le modèle est complètement différent vu que justement nous on fait on a très peu de cotisants. C'est une association qui est vraiment qui vise plutôt finalement à attirer des gens, des bénévoles, des développeurs, des gens qui vont faire des traductions. Donc on a sur les différents types de sources de financement, nous on fonctionne essentiellement sur la base du don, donc qui peuvent être des dons de particuliers à 95% et quelques dons entreprises. Et sinon, on fonctionne avec deux autres sources de financement. Une dont on espère se débarrasser très rapidement, c'est la publicité. Et une autre source de financement qui sont des prestations qui se séparent en deux parties. D'une part, les ventes qu'on fait des goodies à la fois sur les salons et en ligne. Et d'autre part, des prestations informatiques qu'on peut faire autour des produits que Framasoft sort régulièrement, typiquement la Framaki ou des produits comme cela sur lesquels on nous demande de réaliser des personnalisations.
Voilà. D'accord. Donc une approche presque un petit peu commerciale quelque part.
Oui, oui, oui. Et on souhaiterait l'éviter au maximum, ouais. Puisque tout comme Frédéric le disait, au niveau des subventions, qui ne veulent pas rentrer dans une forme de jeu de dépendance, nous on ne souhaite pas rentrer dans une dépendance finalement vis-à-vis où on deviendrait prestataire. On n'a absolument pas ni l'objectif ni la volonté de devenir SS2L. On souhaite rester indépendant et on préférait nous se baser uniquement sur un modèle de don. Parce qu'on se retrouve autrement, nous on n'est pas parti sur un modèle de cotisation d'abord parce qu'il faut être une association relativement structurée pour accueillir beaucoup de cotisants et les relancer, les adhérents, etc. Nous on a choisi vraiment plutôt de fonctionner sur le don en disant on va sortir des produits, si ces produits plaisent, si le service quasiment parapublic que fournit Framasoft convient et plaît, les gens fourniront a posteriori. Et on fonctionne sur ce modèle-là.
D'accord. Donc deux modèles basés en gros sur le don. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un modèle qui permet, qui est suffisant pour, je dirais, soutenir vos actions à votre goût, on va dire ?
C'est pas suffisant parce qu'il y a toujours beaucoup plus de choses à faire que de ce qu'on pourrait faire. Ceci dit, effectivement, ça permet de. Ce qui est important de rappeler, c'est que l'objectif n'est pas de financer des associations, c'est de financer des actions. Mmh. Nous, l'April, on a fonctionné pendant très longtemps sur un mode bénévole et il y a des associations qui fonctionnent encore sur un mode bénévole. Néanmoins, il y a un certain nombre d'actions pour lesquelles le bénévolat a ses limites. Nous, à l'April, la principale action pour laquelle le bénévolat a ses limites, c'est des actions institutionnelles, parce que c'est des dossiers compliqués, c'est des rendez-vous en journée avec des politiques, donc il faut des gens à temps plein. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi effectivement de faire appel à des cotisants pour permettre de financer ces actions, et qu'on ne peut pas faire appel non plus vraiment à des projets, des financements par projet comme Pierre-Yves de Framasoft, parce que nous, on peut pas un projet, je veux dire, sensibiliser le politique, n'est pas financé par une subvention, par une aide. C'est financé vraiment par les adhésions qui, par les adhérents qui soutiennent. Donc aujourd'hui, on envisage éventuellement d'enrichir l'offre de financement de l'April. Déjà, de faciliter le financement par prélèvement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué d'avoir un prélèvement à l'April que, par exemple, à Framasoft. Nous, c'est à l'ancienne, on va dire, c'est un papier, formulaire d'autorisation de prélèvement qu'on envoie à la banque. Framasoft, eux, c'est par carte bleue. Et moi, qui suis prélevé tous les mois par Framasoft, j'ai trouvé ça très rapide. J'ai changé de carte bleue il n'y a pas très longtemps. En 5 minutes, j'ai renouvelé. Donc, on envisage de faire ça. Et puis aussi, on envisage, et on l'a fait une première fois, de recourir à des financements particuliers pour des projets qu'on a déjà prévu. Alors je vais prendre un exemple très rapide qui concerne aussi d'ailleurs Framasoft. On a fait un catalogue libre il n'y a pas très longtemps.
Ouais, fait,
on a mis en ligne une version PDF et ensuite on nous a dit, les gens nous ont dit, mais on aimerait bien avoir une version imprimée. Donc, très compliqué individuellement à faire. Donc on s'est dit, on va faire un appel, souscription et on a une version imprimée. On envisage de faire, on travaille sur une version libre association, c'est-à-dire pour le monde associatif. Et là on s'est dit, on va faire directement effectivement le PDF, mais dès le début du projet, on va trouver un financement pour l'impression. Donc on a été voir un partenaire qu'on connaissait déjà, le Crédit Coopératif, ouais. Qui était intéressé par sensibiliser ses clients PMA, donc petites et moyennes associations, au logiciel libre. Et on leur a dit, voilà, nous on fait toute la partie éditoriale, avec vous éventuellement, et vous, vous prenez en charge le financement de l'impression. Donc ils vont financer 5000 exemplaires, on en récupère 2500 pour notre réseau, et chose très intéressante, ils en gardent 2500 pour développer, pour diffuser dans leur réseau. Donc là, c'est un financement par projet très ponctuel, mais d'une action qui était déjà prévue.
D'accord. Est-ce que chez Framasoft, il y a des projets de ce type-là ?
Alors, on a des projets de ce type-là, mais nous, finalement, pour répondre à ta question qui était est-ce que c'est suffisant, la réponse est un peu la même, c'est non, c'est rarement suffisant. Avec plus d'argent, évidemment, on peut faire plus de choses et plus d'actions. On fonctionne un peu sur ce même mode qu'à l'April. On essaye de développer les projets en fonction aussi de l'argent qu'on a. Cet argent, il sert essentiellement, on va dire, à 90% à financer les postes des permanents. La somme qui reste sert à proposer, par exemple, acheter des serveurs, maintenir, évidemment, nous permettre de nous déplacer, de venir sur les salons. Et après, c'est en fait, les services qu'on propose sont définis un petit peu justement avec ce reliquat d'argent qui nous reste. Donc on fait des projets, par exemple, il y a un projet qui s'appelle Framaphonie qu'on va bientôt sortir, qui est un projet de diffusion du livre dans les pays d'Afrique ou dans les zones faiblement connectées. Et là, du coup, on utilise finalement l'argent qu'on gagne avec la vente, par exemple, des DVD école, puisqu'on a un Frama DVD école qui contient des logiciels pour l'école primaire. L'argent qu'on gagne sur la marge, en fait, en vendant les CD, est directement réinvesti pour un DVD acheté. En fait, on met un DVD de côté qui sera envoyé gratuitement, du coup, dans des zones où ils ne peuvent pas télécharger 4 gigas, un ISO qui fait 4 gigas, pour eux c'est tout simplement pas possible. Donc on diffuse comme ça aussi des projets. Donc évidemment, plus on a d'argent, plus on peut faire des projets de ce type-là, et plus ça permet évidemment de pérenniser les actions qu'on a entreprises depuis maintenant 10 ans.
Et justement, la démarche de prendre comme ça des partenaires par rapport à un projet pour leur dire, bah voilà, nous on a un projet, le voici, est-ce que vous êtes d'accord pour le financer et effectivement avoir dans ce financement une part qui revient quelque part à l'association et qui sert derrière à refinancer d'autres choses. Parce que là, par exemple, dans le crédit coopératif, ils ont payé effectivement l'impression. Bon, est-ce que pour eux, est-ce que ça peut pas aller un cran plus loin pour qu'ils financent un petit peu au-delà et peut-être financer d'autres projets? Non, c'est pas...
Alors évidemment, on serait ravis qu'ils financent d'autres projets. Je dirais que là, c'est un projet ponctuel. Peut-être qu'à terme, le crédit coopératif en tant que banque adhérerait à l'April, ce qu'on souhaiterait aussi. Ce que je voudrais rajouter par rapport à la question aujourd'hui, est-ce que ça suffit? Il y a eu un changement notable ces 2-3 dernières années. C'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui recherchent du financement. C'est-à-dire, il y a quelques années, Framasoft ne recherchait pas de financement. Nous, l'April, quelque part, on a été l'une des premières associations à dire clairement qu'on avait besoin de financement pour nos actions. Il y avait déjà la DULAC qui existait, mais c'était plutôt un financement par collectivité. Nous, on a dit au grand public, aux libristes, soutenez-nous. Aujourd'hui, maintenant, il y a Framasoft. Donc il y a plusieurs associations qui recherchent effectivement des financements. Il y a aussi des thématiques qui sont montées en puissance. Récemment, la neutralité du net, par exemple, est montée en puissance. Donc la quadrature du net qui est arrivée il y a 2-3 ans, pareil aussi, a besoin de financement. Donc l'une des difficultés aujourd'hui aussi pour les gens, c'est simplement que dans une période difficile économique, c'est de faire le choix effectivement de quelles associations ils vont soutenir. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que malgré l'importance effectivement de cette question de neutralité du net, le logiciel libre a encore besoin d'être soutenu. Parce que même si la voie est libre, elle est semée d'embûches quand même. Donc il y a encore besoin de gens comme l'April, comme Framasoft. Ouais.
Et effectivement, est-ce que en recherchant un peu plus en avant, parce que quelque part, bon, le don a quand même effectivement ses limites. Hein, on n'est pas dans une période économique fastueuse. Donc les gens ont forcément leurs limites, font leurs choix et autres. Donc quelque part après, il reste en termes de financement, il reste guère que les entreprises quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas dans... C'est quoi sur ce créneau-là? Parce que si je prends un exemple, on prend nos voisins nord-américains. On va prendre un gros exemple, genre Mozilla. Bon, ils ont passé effectivement cet accord avec Google à l'époque. Alors Google n'était pas ce qu'il était à l'époque, hein, mais bon, déjà, c'était... Mais bon, quelque part, ils se sont trouvés un moyen de financement qui fait qu'aujourd'hui, ils sont, on peut dire, un peu assis sur un tas d'or, quelque part. Est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche un petit peu similaire d'aller rechercher, parce que les associations peuvent proposer du mécénat. Hein, je voyais sur la page de dons côté entreprise, hein, il y a les possibilités de mécénat ou autres qui sont fiscalement intéressantes pour les entreprises, dans des partenariats ponctuels sur des projets. Est-ce qu'il n'y a pas un créneau ici pour effectivement lever des fonds et financer des projets?
Alors, je pense que là, du coup, la réponse est différente suivant qu'on est plutôt Framasoft ou plutôt April. Oui, oui. Et évidemment, les associations sont complémentaires. Donc, par rapport à Framasoft, finalement, les entreprises vont vouloir nous financer par rapport à des projets qu'on a déjà faits. On aura beaucoup plus de difficultés, alors que l'April va être représentant et mobilise un travail, on va dire, de lobbying ou d'advocacy, je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut le dire en français, mais de représentation, finalement, de ces entreprises vis-à-vis des institutions. Nous, on a plutôt une optique vraiment projet, réalisation de projet, proposition de service, qui n'est pas forcément la même et qui attire beaucoup moins les entreprises. Pour donner le nom, du coup, on a un seul gros mécène entreprise, qui est, je le cite, hein, faut bien le remercier, la société MiliWeb, qui édite des bureaux numériques nomades, donc sur lesquels il y a des ponts évidemment avec notre projet Framaki. Mais on a après quelques petites entreprises qui nous soutiennent, et évidemment on les en remercie, mais qui soutiennent à hauteur de quelques centaines de et forcément c'est beaucoup beaucoup moins puissant et ça soutient assez peu finalement les gros besoins qu'on aurait, mais c'est ça a évidemment son importance. Par contre, nous, ce qu'on préférerait avoir, c'est du mécénat de compétences. De compétences qui serait à développer. Le mécénat de compétences, c'est quoi? C'est des entreprises qui mettent à disposition du temps de leurs salariés pour aider les associations. Et là, ça peut être on pourrait très bien imaginer, je sais pas, une SS2L, oui, qui travaillerait sur la clé, qui viendrait nous aider pour faire de l'administration de serveurs. On est à la base, nous, on n'est pas informaticien, on est une association qui vient du milieu de l'éducation, donc on a des informaticiens, mais on les a à la marge. Je pense que l'April aussi a des problèmes assez récurrents des fois pour trouver des gens pour aider à l'administration système de leur système d'information. C'est évidemment toujours utile des gens qui peuvent débloquer quelques heures pour venir nous aider à faire, je sais pas, du load balancing sur les serveurs, des choses comme ça. Quand on diffuse voilà, une nouvelle version du FramaDVD, c'est 4 gigas fois 100 000 téléchargements, donc il faut les premiers jours que ça, que ça accuse le coup. C'est des choses sur lesquelles voilà, des gens, des entreprises peuvent nous apporter du temps, des compétences, qui peut en plus être non seulement défiscalisé pour les entreprises, mais valorisé pour nous en tant qu'association.
Et donc,
moi, plutôt que de l'argent, même si un chèque, évidemment, on n'a rien de contre, on peut vraiment imaginer plutôt des partenariats sur de la production, de l'aide, du soutien, du conseil, de la part d'entreprise.
Il peut y avoir des problématiques technologiques ou autres qui peuvent intéresser les entreprises, et quelque part, comme on travaille sur du logiciel libre, bon, ce qu'elle ferait pour Framasoft, elle l'utiliserait pour elle.
Elles auraient en plus l'autre avantage qui de finalement, pourquoi est-ce qu'on est bénévole dans une association du libre ? Le plus souvent, c'est parce qu'on aime le logiciel libre, parce qu'on a envie de le défendre et parce que ça valorise un petit peu le travail qui n'est pas toujours hyper réjouissant qu'on peut faire en entreprise ou sur lequel on a l'impression d'être un peu trop cadré. Du coup, le fait de travailler pour des associations valorise un petit peu ces aspects-là. Et on pourrait très bien imaginer du coup des entreprises qui libéraient du temps de leurs salariés pour travailler pour des associations. Exactement ce que fait Google d'ailleurs en libérant quasiment 20% du temps de leurs salariés en leur disant travaillez sur des projets de votre choix, épanouissez-vous et voilà. Donner du temps à Framasoft ou à l'April, ça peut être aussi une forme d'épanouissement pour des salariés.
Justement, sur cet aspect entreprise, j'aurais rajouté deux petits points. Le premier, c'est qu'à l'April, par exemple, on a 300 entreprises qui nous soutiennent. Et nous, on recherche la diversité des soutiens aussi. Parce qu'en termes de représentation, c'est très important. On a aussi un modèle de financement sur lequel on met une limite aux cotisations de manière à dépendre d'aucun acteur. On peut se fâcher avec un acteur de même façon qu'un acteur peut se fâcher avec nous. Ça, c'est très important. Ouais. Parce qu'il y a des modèles économiques de financement d'associations où vous prenez 5 pools de grosses entreprises qui mettent par exemple chacune 100 000 euros. Mais en gros, c'est elle qui décide de l'avenir de l'association. Alors qu'à l'April, c'est le conseil d'administration élu de bénévoles. Donc ça, c'est le premier point important. Dans le passé, des entreprises ont soutenu des projets April, comme par exemple l'impression d'un livre blanc autour des modèles économiques. Plusieurs entreprises se sont mises ensemble pour financer une version imprimée. Donc ça, c'est important. On a aussi effectivement le soutien par de la ressource humaine. Là, on est à côté du stand de Xivo, qui fait de la téléphonie. Ben, par exemple, le service de téléphonie de l'April, c'est quelqu'un de Xivo qui l'a configuré totalement bénévolement.
D'accord.
Donc, il est venu chez nous, qui l'a installé sur un serveur et il fonctionne très bien. Donc, effectivement, ce mécénat de compétences. Et d'ailleurs, on a des réflexions actuelles autour de tout ce qui est le bénévolat valorisé. C'est-à-dire les contributions individuelles, mais aussi des contributions individuelles via des entreprises. Donc, ça, c'est fondamental d'avoir effectivement ces ressources-là, parce que souvent, malgré le fait qu'on soit des associations d'informaticiens, des fois, on a des difficultés à trouver de la ressource sur des sujets ponctuels. Donc voilà. Après, il peut y avoir plein d'imagination dans les financements. On peut faire des appels à dons ponctuels, il y a des campagnes d'adhésion. Ce qui est toujours important, qu'il faut garder en tête dans le financement, c'est que le financement est au service du projet associatif. Et le projet associatif, c'est de promouvoir et défendre le libre pour nous. Le projet associatif, c'est pas de financer simplement les permanents pour qu'ils puissent manger. C'est important qu'ils puissent manger. Parce que
oui, quand même. Hein.
Quand même, boire un petit peu. Mais ce qui est important, c'est de financer le projet associatif. Et ça, c'est toujours été mis dès le départ dans la construction de l'April pour éviter des dérives d'associations en fait, dont le métier, c'est simplement de trouver de la subvention pour financer des permanents qui vont chercher de la subvention. Donc, c'est pour ça que le modèle pour qu'on a, nous, de cotisation et le modèle de don de Framasoft est un modèle qui est stable et qui est cohérent avec le modèle associatif.
Et juste, effectivement, nous, on a choisi exactement pour les mêmes raisons de ne pas aller chercher des subventions parce que on serait rentré très rapidement dans cette problématique-là de il faut remplir le dossier, on rentre dans la case, ah oui, mais il faut que ça corresponde. Voilà, cette année, il y a une orientation pour il faut viser d'abord les jeunes, les femmes, donc voilà, on est obligé d'orienter le projet comme ci, comme ça, etc. C'est sans doute très bien, mais nous, on pense d'abord au projet, d'abord au service qu'on veut rendre avant de se poser la question est-ce qu'on rentre dans la case de la subvention. Donc, nous, cette année, c'était un peu la nouveauté sur la fin de l'année 2010. On a décidé de lancer une campagne, non pas d'adhésion, mais effectivement de soutien à Framasoft, qu'on a appelé la campagne 1010-1, où on cherchait finalement 1000 personnes qui voulaient bien donner 10 euros par mois pendant un an. Et voilà, on en est aujourd'hui à peu près à la moitié du chemin. C'est vrai que on prévoit évidemment, on aimerait atteindre l'autre... finir, voilà, l'autre rive, voilà, on est à moitié, on espère qu'on va pas être obligé de faire demi-tour, mais évidemment, c'est-à-dire que quand bien même il y aurait zéro permanent, et je le dis d'autant plus facilement que moi-même je suis permanent, il y aurait pas de permanent, le projet Framasoft continuera à exister. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut pouvoir aller plus loin, est-ce qu'on veut pouvoir faire d'autres projets, est-ce qu'on veut pouvoir faire d'autres livres, tout le travail finalement des permanents consiste à organiser cette ébullition bénévole qui tourne et qui existe autour de nos différents projets. Et c'est à ça finalement qu'on sert. Mais c'est l'argent en tant que tel est moins important que le travail bénévole et que le projet collaboratif et qu'on imagine qui vise effectivement à promouvoir le logiciel libre, la culture libre, etc. suivant les assos.
Alors, si je peux justement enrichir là-dessus rapidement, c'est vrai que dans le travail de permanent, on a deux actions. On a notre propre travail de permanent qui peut être de monter des projets, aller voir des responsables, des journalistes, répondre à des interviews, etc. Mais un travail aussi essentiel, c'est de permettre effectivement à des gens qui ont peut-être une heure à contribuer à un moment ou une heure par semaine, d'avoir un cadre de contribution qui soit bienveillant, dans lequel ils puissent tout de suite pouvoir finalement proposer quelque chose, être accompagné. Et c'est vrai que par exemple, nous, l'une des révolutions récentes à l'April ces deux dernières années, c'est l'arrivée de graphistes. C'est-à-dire que nous, historiquement, on est une association quand même de geeks. Et donc notre domaine de communication, c'était réservé noir et blanc et puis avec des sigles bizarres. Et depuis deux ans, on a des graphistes, dont notamment un, Antoine Bardelli, que je tiens vraiment à saluer, qui fait un travail extraordinaire. Et lui, il a trouvé un cadre, je pense, dans lequel il s'éclate. Il propose des choses, on itère ensemble sur le contenu et on a des outils de communication aujourd'hui qui tiennent la route. Donc c'est important de se souvenir que, voilà, que dans le travail de permanent d'une association, il y a son activité en tant que telle, mais il y a aussi cette animation de la communauté qui, effectivement, aujourd'hui, à l'April, à 5000 adhérents, n'est plus tout la même chose que quand on était 200 adhérents.
Et voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire pour financer Divergence FM, Pascal.
Et oui, financer Divergence FM.
Nous ne saurions trop vous y encourager. Un tout petit peu de musique avant de faire un retour donc sur la projection Ciné Libre qui s'était tenue le 15 mai. Toujours un extrait de cette compilation Dub Tentacles.
Et oui, Dub Tentacles, volume 3, masterisé par Tsunami Wazari, qu'on connaît bien, de chez Aldente Records, et puis qui aussi entretient Fresh Pulp, donc fresh-pulp.net. On va écouter Trucking par White Tapu, en licence Creative Commons by NCSA 3.0. Téléchargez, partagez-le de la même manière.
Le dimanche 15 mai se tenait à Montpellier au cinéma Utopia un petit déjeuner projection ciné libre. Et Pascal, tu as eu le bon goût de t'y rendre.
Oui, tout à fait. Et puis il y avait donc David Revoy qui venait de Toulouse pour la journée donc de ce dimanche et qui nous présentait donc les trois films de la Fondation Blender, les Open Movie, donc projetés dans le cadre donc de ce petit déjeuner ciné libre. Donc on a pu y voir Elephant Dreams, donc toujours présenté par David Revoy. Ensuite, c'était Big Bunny, voilà, un autre projet avec un lapin, toujours présenté par David Revoy, qui faisait aussi le projectionniste du moment, puisqu'il avait son portable et film en haute résolution. Et évidemment, le dernier de la Blender Foundation, donc Sintel, dont il est le
directeur
artistique de ce projet. David Envoy, qui est un artiste toulousain, de 25 ans qui dessine très bien à la palette graphique. Et puis on a pu donc faire une petite interview directement dans les studios de Divergence avec quelques interviews aussi du public à la sortie de ces projections dégustées.
Alors en fait je suis un infographiste freelance qui utilise principalement les logiciels libres sous un système Linux. Et donc j'étais à cette projection pour pouvoir présenter le film Sintel auquel j'ai participé en tant que directeur artistique et ainsi présenter les deux autres films de la Blender Foundation, Big Bug Bunny et Elephant Dream.
Oui, tu présentais ces films. En quoi tu es intervenu au sein de ces films ?
Alors je suis intervenu sur Sintel en tant que directeur artistique, c'est-à-dire que j'ai pris le scénario, donc la partie textuelle telle qu'elle était, et j'ai transmis ça en images, mais en images en 2D. Alors la 2D, c'est simplement du dessin, mais colorisé sur ordinateur, en sachant que l'équipe artistique 3D, parce que c'est un court-métrage en 3D, d'animation 3D, a repris les dessins pour pouvoir les transformer en modèles et les animer pour les mettre sur écran en 3D.
Alors tu es un jeune directeur artistique, mais tu as un parcours un petit peu atypique, tu nous disais pendant le débat. Peux-tu préciser un petit peu plus
Oui, c'est vrai que je suis un très jeune directeur artistique, puisque Sintel est le premier projet avec lequel je fais de la direction artistique. J'ai commencé par une carrière de peintre, de peintre simple sur chevalet, c'est-à-dire qu'on appelle ça peintre traditionnel, et j'ai fait du portrait à Avignon, et ainsi de suite, j'ai découvert le numérique en parallèle, et ma carrière a complètement bougé au numérique, et de fil en aiguille, après avoir testé les logiciels propriétaires, je suis tombé amoureux des logiciels libres, et c'est ainsi que j'ai fait ma carrière dans les logiciels libres.
Peux-tu nous citer quelques exemples de logiciels libres qui sont adaptés à ce que tu fais et qu'est-ce que tu en penses
Alors j'utilise principalement un qui est très connu dans le monde de l'image qui s'appelle GIMP. Donc le GIMP, on le penserait adapté que à la retouche photo, mais il a toute une partie de brosse qui l'adapte très bien à la peinture numérique. J'utilise aussi un petit logiciel qui s'appelle MyPaint qui est un moteur de brosse numérique qui est très excellent. Et j'utilise aussi un autre logiciel qui s'appelle Alchemy, qui lui est plus basé sur des accidents pour pouvoir un peu chercher l'inspiration.
Là, au niveau de Blender, quels sont, d'après toi, les points caractéristiques qui justement font que Blender se démarque ou va se démarquer par rapport à d'autres logiciels de synthèse que l'on pourrait trouver ?
Le point principal qui démarque Blender des autres logiciels est bien la communauté. C'est-à-dire que face à un problème situé, la communauté va réagir et apporter une solution qui peut être complètement originale par rapport à ce que le logiciel propriétaire peut apporter. Ça va se transcrire bien souvent sous la forme de script Python, ça va aussi se transcrire sous des sites pour l'apprentissage et la documentation, mais encore également sous simplement des bug reports pour pouvoir faire avancer le logiciel. Et ça, c'est une très grande force.
Très grande force, très grande réactivité, sans doute, puisque, à mon avis, la communauté est très réactive et permet donc de corriger ou d'avoir des améliorations très rapidement sur le logiciel.
Exactement. Les versions du logiciel sortent assez fréquemment. Il y a même des sites qui proposent des versions presque tous les jours, des versions du logiciel, puisque c'est un logiciel en développement, donc on peut imaginer ça sous la forme d'un arbre. Pour les plus familiers avec le code, ils connaîtront cette version de développement avec un tronc principal et des branches, et on va trouver des développements avancés tous les jours dans ces branches-là. Et bien sûr, il y a parmi toutes ces branches et ces développements la Blender Foundation qui s'occupe de donner la vision principale du tronc et aussi d'intégrer dans la version principale des modules externes plus ou moins récents, plus ou moins stabilisés.
Alors avec la projection de ces trois films, on voit une progression au sein du logiciel, différents éléments qui sont apparus, qui n'étaient pas dans les précédents. Peux-tu nous dire un petit peu l'évolution qu'il y a eu entre ces trois films ?
Alors c'est vrai que les trois films de la Blender Foundation ne sont pas réellement des démos, ce sont des projets artistiques, mais aussi ont servi beaucoup à mettre en exergue les capacités de Blender et aussi à développer des nouvelles capacités pour ce dernier. Alors sur Elephant Dream, par exemple, il y a eu tout le compositeur, c'est-à-dire tout le réglage des couleurs, des images calculées, ainsi que des effets de rendu de flou. Bref, toute cette partie de post-production qui était inexistante avant dans Blender, qui est apparue, je crois que c'était vers la version 2.42 pour les habitués. Pour Big Bug Bunny, il y a eu vraiment une forte volonté de la communauté d'avoir de la fourrure, de l'herbe, des particules pour les feuilles d'arbres, et ainsi de pouvoir accéder à la nature. Le pari a été bien remporté avec ce projet-là, qui a été mené avec brio. Et dans Sintel, nous avons des petites contraintes qui étaient plutôt dans le côté épique, c'est-à-dire nous avons un format vidéo qui est hors norme avec le 4K, le 4096 pixels de large, et ainsi que d'autres défis techniques comme avoir un dragon qui crache du feu, avoir des ailes de dragon qui suivent le squelette de déformation, ou bien avoir un personnage féminin avec des cheveux qui vont bouger dans les scènes d'action.
En effet, tu parles du format 4K. Plus l'image est grande, plus la résolution est nécessairement élevée pour avoir un rendu de détail qui ne soit pas un gros pixel tout carré, tout baveux à l'écran. En poids d'image, en temps de calcul, ça suppose qu'il y a derrière des moyens qui sont quand même mis à disposition pour avoir des temps de rendu assez courts pour le nombre d'images, puisque... le temps du court-métrage augmente de film en film, et donc forcément le volume, le traitement doit être assez conséquent.
En effet, le traitement est très conséquent sur le rendu, puisque chaque image sur un tel film peut aller sur plusieurs heures de rendu, alors quand on a un budget de plus de 11 000 images, on pourrait passer des semaines, voire des mois entiers à calculer. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place une machine qui s'appelle une ferme de rendu dans notre jargon, qui est en fait comme un serveur, c'est-à-dire une armoire remplie d'ordinateurs différents, auquel on va passer des jobs, des petits travaux, et on va envoyer des tâches. On a eu des développeurs qui ont fait des sortes de logiciels qui vont gérer ces tâches et qui vont envoyer à des ordinateurs qui sont rangés dans cette armoire-là des boulots, s'il y en a un qui dort, s'il y en a un autre qui est éveillé. Il faut savoir que sur Big Bug Bunny, c'était Sun qui nous avait prêté, en fait, qui avait prêté à la Blender Foundation une unité de rendu. C'est-à-dire, quand je parle d'unité de rendu, c'est des machines. Et que pour Sintel, la Blender Foundation a eu la chance de pouvoir avoir sa propre ferme de rendu dans les locaux. Ce qui fait que les artistes ont pu avoir, par exemple, à travailler sur des séquences et dès le lendemain, pouvoir les voir en vrai et pouvoir savoir ce qu'il fallait corriger.
Donc tu disais dans le débat que des scènes de Sintel ont été faites par d'autres studios Blender dans le monde. C'est une ouverture par rapport au projet précédent et surtout sans doute une capacité à pouvoir faire réaliser ou produire le film par différents studios qui se trouvent là. C'était un studio en Amérique du Sud.
Oui. Les studios Liqua de Aura sont des studios en Amérique du Sud qui ont passé un beau grand coup de main sur Sintel, notamment par l'utilisateur sous le pseudo de Malefico qui a pris à bras le corps presque des scènes entières. Et en fait, grâce à son travail, la Blender Foundation a vu qu'elle pouvait largement gérer des scènes et même des assets en externe. Donc sur ce projet, on a eu la communauté aussi, où on a fait ce qu'on appelait un modeling sprint, qui a permis à la communauté de s'emparer de certains objets de Blender, de certains objets du décor. Et on a pu voir que la communauté, via Internet, pouvait s'emparer de scènes du film, aussi bien que des studios extérieurs. Donc c'est un gros avantage qui seront peut-être mis à contribution pour un prochain projet.
Donc faire contribuer la communauté en même temps que la production du film.
Oui.
C'est assez original dans la conception de court-métrage, en tout cas, ou de films d'animation, où justement il y a une externalisation, j'allais dire publique, du projet, alors même qu'il n'est pas encore réalisé à 100%.
Oui, par exemple, dans Sintel actuellement, on peut voir les oiseaux qui volent au-dessus de la ville. Beaucoup d'éléments dans la ville, dans le marché, ont été faits par la communauté. Et cette façon a permis à l'équipe de Sintel de venir avec un grand packaging d'objets comme ça très très rapidement. Et c'était vraiment une façon de pouvoir travailler qui est très originale et aussi très enrichissante, qui est très productive, mais qui ne peut se passer bien sûr qu'avec des projets libres et open movie, parce que ce genre de contribution-là, on la retrouve dans le logiciel, dans tout ce qui est le code. Et c'est rigolo de voir que ça peut s'adapter vraiment aux projets plus artistiques comme la création d'un film.
La suite de des projets pour la Blender Foundation, c'est un jeu vidéo dont Syntel est un peu le trailer du jeu, ou c'est un autre projet encore inconnu?
Alors Syntel, le jeu existe, c'est un studio indépendant, c'est un regroupement de passionnés qui l'ont pris, et on va respecter leur développement, et ça ne sera pas donc Syntel le jeu, même si Big Bug Bunny avait connu Yo Frankie, c'est-à-dire le jeu tiré du film précédent. Non, le prochain film de la Blender Foundation s'annonce pour être un film donc qui va être filmé à la vraie caméra avec des vrais acteurs, avec des réelles scènes, et dont Blender sera là pour faire des effets spéciaux par-dessus et faire des incrustations de décors, ainsi que pourquoi pas des vaisseaux. Et ce nom de projet s'appellera le projet Mango, donc ça ne sera, c'est pas le nom du film, c'est simplement pour l'instant le nom de code, et on espère commencer tout ça à l'automne.
Donc un peu inverser la forme d'une réalisation, c'est-à-dire non pas donc se servir à 100% du logiciel de synthèse pour faire les décors, les animations, les personnages, mais plutôt s'en servir comme une base de décor avec de vrais acteurs. Donc dedans, ça sent sans doute les incrustations fond vert, etc. Donc toutes ces techniques d'image pour avoir donc différents calques et donc mixer comme ça du décor irréaliste, ou disons réaliste mais complètement généré par ordinateur, et avec donc des personnages qui évoluent dans un monde dont ils ne savent même pas réellement, puisqu'ils n'en ont pas la vision directe.
Oui, ça va vraiment être les techniques qui vont être mises en œuvre. On parlait de fond vert, on parlait aussi de points de capture sur les personnages pour pouvoir bien discerner des mouvements, pour pouvoir essayer aussi de masquer certaines parties des personnages, pour ajouter des masques ou des parties qui, elles, seront gérées numériquement. Par exemple, pour donner un exemple du projet pour lequel, pour l'instant, on en parle, c'est d'essayer de proposer une version d'Amsterdam dans le futur. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu ces péniches, pour ceux qui connaissent un peu les vieux bâtiments, ça devrait être un réel défi, et à la fois un non-défi au niveau de filmer les scènes pour les décors, puisque comme la production serait à Amsterdam, on aurait vraiment les lieux très trouvés rapidement.
Une petite URL pour Blender à rappeler ?
Oui, www.blender.org, ça c'est pour le site principal de la Blender Foundation, et pour tous ceux qui veulent se tenir au courant des nouvelles de comment la communauté Blender évolue, je leur conseille www.blendernation.com.
Moi j'avoue que je ne connaissais pas bien avant les logiciels libres, enfin qu'on puisse faire des tels petits films d'animation avec des logiciels libres, moi je suis vraiment impressionnée. Enfin, l'évolution en plus entre quelques années, c'est vraiment impressionnant. Surtout Syntel, les cheveux justement et ce qu'il disait sur les membranes, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc c'est vrai que après je connais moins en animation, je ne me connais pas bien. Donc.
Je les ai déjà vus avant les films, mais les avoir vus en grand écran et avec cette qualité, et surtout avec les explications de David, ça a vraiment changé la perspective, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Tu es un adepte de Blender ou un utilisateur ?
Un fan, on va dire, un fan de Blender surtout, et un utilisateur partiel, oui.
Ton impression de Blender par rapport à d'autres logiciels que tu aurais pu utiliser
Alors là, honnêtement, y a un long débat entre Maya et Blender. Et honnêtement, Blender, pour moi, c'est beaucoup plus naturel. Et ça me vient beaucoup plus... je le contrôle beaucoup mieux. Bon, peut-être après, c'est au niveau de l'habitude. Mais c'est vrai que j'adore l'interface et la rapidité. Il s'ouvre directement quand tu cliques dessus. Et c'est rapide. Ça évolue beaucoup, justement, avec des projets comme les Open Movie. Et ça amène beaucoup à la communauté, et franchement, comme c'est la communauté pour la communauté qui travaille ensemble, et du coup ça donne des résultats qui sont vraiment impressionnants et super pour les utilisateurs, quoi.
le fait de pouvoir rouvrir le projet Syntel par exemple ou un autre projet, t'as déjà essayé de recréer ou de régénérer une image ou de réadapter peut-être une scène
Alors ça c'est surtout, c'est pour nous en termes d'éducation c'est intéressant puisqu'on peut voir tout ce qui a été fait au niveau du rigging et au niveau de la lumière et tous les effets qui ont été utilisés qu'on ne pourrait pas toucher et utiliser nous-mêmes puisque c'est un niveau assez supérieur et de avoir accès à ça, ça nous donne une dimension professionnelle et ça nous montre vraiment le pouvoir de Blender, surtout pour le film Syntel qui a été très poussé au niveau technique. Donc c'est plutôt aspect éducation. Après c'est très rigolo de jouer avec le personnage de Syntel ou le dragon.
Avant de mettre les pieds au cinéma, Blender, je ne savais pas ce que c'était, j'ignorais jusqu'à son existence. J'ai été très surpris de savoir qu'on pouvait, avec un logiciel libre, faire des choses vraiment magnifiques.
C'est vrai que là, on voit ce que ça donne.
Et aussi, on voit que c'est des personnes, on voit ces personnes, on discute avec, on voit que c'est des équipes, on met des visages sur des films d'animation. C'est pas évident quand on voit un petit écureuil qui fait un petit clin d'œil ou quoi, d'imaginer que derrière, il y a un monsieur barbu avec des cheveux un peu hirsutes, parce qu'il était barbu, la deuxième personne. Et donc, c'est rigolo de voir qu'il y a des hommes derrière ces personnages et puis que... Bon, mais c'est aussi des grands enfants qui s'amusent.
C'était donc un retour sur le petit déjeuner plutôt, projection ciné libre du dimanche 15 mai, où on avait pu bien voir les trois productions principales de la fondation Blender, Elephant's Dream de 2006, Big Bug Bunny de 2008 et Syntel de 2010. Trois tranches de 2 ans pour observer les évolutions notables de la production en 3D sous logiciel libre.
Donc à suivre de près la Fondation Blender, notamment sur le nouveau projet dont parlait David Envoy.
Et c'est ainsi que se referme cette divergence numérique 111e du nom. On vous souhaite bien une semaine toute pleine de liberté. Et on ne saurait trop vous encourager à aller sur divergence-fm.org, sur l'article de cette émission, et d'aller parcourir tous les articles de la revue de presse qui sont tous savoureux cette semaine.
Merci à vous et restez libres.
Terror states.